Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Vous savez, quand j'étais là assis pendant la louange, J'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je me sens bien ici. Mon cœur est content ici. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose dans cette, parmi cette congrégation qui fait que mon cœur se sent bien. Et vous savez ce que j'ai entendu le Seigneur dire? C'est parce que moi aussi, je me sens bien ici. Il a dit, c'est parce que dans cette maison, ils ont ôté le levain de cette maison. Tu sais ce que c'est que le levain? C'est la chose que vous mettez dans la farine pour que ça gonfle et que ça devienne du pain. Qu'est-ce que c'est dans la Bible? Qu'est-ce que c'est le levain? Le levain, c'est l'hypocrisie. C'est essayer d'être quelque chose que l'on n'est pas. Et la Bible nous dit de ôter l'hypocrisie de notre maison et de manger le pain de la sincérité et de la vérité. Vous savez pourquoi Jésus se sent bien ici parmi vous? Parce que dans cette maison, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans cette maison, il y a l'authenticité. Il y a la vérité. Et là où il y a l'authenticité, la vérité, c'est là que le Seigneur se sent bien. C'est pour ça que Jésus ne supportait pas les pharisiens, les sadducéens. Et voyez, quand on vient vers Jésus, vers le Père, avec de l'authenticité et de la vérité. Et de la sincérité. Ça lui plaît. Oh, shataka brofa kandede kiestande. Et alors ce soir, mon cœur se sent bien ici. Oh, Jésus se sent bien. Et les anges, il y a des anges ici, il y en a plein. Et ils volent tout autour. Et ils peuvent voler. Et ils peuvent adorer. Non seulement parce qu'il y a de la place ici, mais parce qu'il y a ici, il y a de l'authenticité, de la vérité, de la sincérité. Et je veux dire votre adoration. Amen. Votre louange et votre vie. Amen.
Amen.
Ce soir, c'était pas mon sujet. Amen.
Amen.
Mais je voulais vous communiquer, vous faire savoir ce que j'ai entendu Jésus me dire. Que ça vous édifie. Que ça vous encourage à le louer. Avec un cœur vrai, sincère et authentique.
Amen.
Amen. Ce soir, nous commençons un séminaire sur la guérison divine et la foi. Et avant de commencer,
ariko imbere ko dutangura,
je voudrais vous lire quelques petits témoignages.
Reka ndabashingira intahe gatoya.
Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez,
sizi ko mwibuka,
mais la dernière fois que je suis venue ici,
ariko igihe naza ubuheruka hano,
le Seigneur a fait plein de miracles.
Umwami yarakoze ibitangaza byinshi.
Mais je vais vous lire aussi quelques petits miracles qui se sont passés même pas il y a un an, mais quelques mois, quelques semaines. Parce que vous savez, très souvent, quand on entend un message de foi et de guérison, on a tendance à se dire, est-ce que Dieu veut le faire aujourd'hui? Dieu veut le faire tous les jours. Et ici, dans cette maison.
Amen.
Alors, je vais vous lire. Vous savez, même il y a que quelques semaines de ça, j'étais en Inde. Et j'ai fait un séminaire comme je vais commencer ce soir. Il y avait un monsieur qui était sourd pendant 60 ans. Il a pu entendre pour la première fois. Et je parle de ça il y a que quelques semaines de ça. Alléluia.
Amen.
Une jeune fille qui avait la schizophrénie, elle a été délivrée complètement. Une jeune dame qui avait une hernie discale, qui était dans la douleur, et handicapé, complètement guéri. On n'a pas le parole handicapé dans ce langage. Alléluia. Alléluia.
Amen.
Donc je vais vous lire que quelques petits et témoignages pour vous édifier, vous encourager et pour élever votre expectative. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Alléluia. Amen.
Ce monsieur a dit, j'avais la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. La maladie de Parkinson, c'est quand vous tremblez constamment et vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous savez ce que c'est, oui? Il a dit, et les docteurs ne pouvaient rien faire pour moi. À cause de cette maladie, je ne pouvais pas travailler et trouver un boulot. Je ne pouvais pas pourvoir pour ma famille. Et mon mariage en souffrait aussi. Vous savez que la maladie, ça peut détruire tous les endroits de votre vie. Alors juste pour plaire à ma femme, mais sans trop d'espoir, je suis venue à une réunion où Audrey prêchait ce soir sur le thème « Comment recevoir ce que Dieu a déjà donné ?» Audrey m'a appelée hors de la foule pour imposer les mains sur moi. Au bout de quelques instants, j'ai réalisé que le tremblement de mes mains s'était complètement arrêté. Audrey, cela s'est passé en 2007. Et aujourd'hui, des années plus tard, je suis encore guérie. J'ai maintenant un bon travail. Et je jouis d'une bonne relation avec ma femme. Voyez, Dieu n'est pas seulement intéressé à que vous receviez votre guérison, il veut que vous la gardiez. Amen. Je vais en trouver un autre. J'en ai plein, mais je vais chercher celui.
Oh.
Je m'appelle Marie-Odile.
Et
je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand je suis rentrée dans l'église, j'avais une usure totale des cartilages des deux genoux. Vous comprenez ce que c'est? Les cartilages, c'est ce qui fait qui sont entre la rotule, qui était complètement usée. Je ne pouvais presque plus marcher, tellement j'avais mal. Après avoir entendu votre message, j'ai laissé aller mes béquilles. J'ai commencé et le Seigneur m'a complètement guéri. J'ai commencé à marcher, à courir, à m'agenouiller, même à sauter. J'ai même pu arrêter de prendre mes médicaments que je prenais pour la douleur, et le jour suivant, j'ai pu marcher toute la journée sans sentir aucune douleur. Je me rappelle de cette femme, elle est rentrée dans l'église comme, en marchant comme ça, avec des béquilles. Elle est ressortie de l'église en courant.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Amen.
Un de plus. J'avais un cœur très malade et faible depuis tout jeune. Je ne pouvais pas courir ou faire quoi que ce soit sans être à bout de souffle. J'avais des palpitations de cœur et mon cœur battait irrégulièrement. Et à chaque effort, j'étais tellement fatiguée, pris de vertige tout le temps. Mon dos aussi était un problème. Je ne pouvais pas rester assis pour de longues périodes de temps, ni me baisser sans douleur. À l'école, j'ai entendu Audrey enseigner sur la guérison. Après avoir prié et imposé la main sur moi, elle a commandé à mon cœur d'être guéri. Et a parlé à mon dos, il lui a commandé d'être guéri aussi. Mais ensuite, Audrey m'a dit d'aller dehors et de commencer à courir. J'étais surpris. Mais j'ai obéi. Je suis revenue étonnée. Car mon cœur était complètement guéri. Ainsi que mon dos. Alléluia. J'en ai tellement beaucoup. Je reçois des témoignage d'une manière constante.
Vous
voyez, ce n'est pas simplement quelque chose que Dieu a fait il y a 25 ans. Dieu veut le faire tous les jours. Ce soir, comme nous commençons, il y a une question que je dois répondre. Devons-nous accepter la maladie? Devons-nous nous résigner à la maladie? Pourquoi? Parce que si vous avez un tout petit doute que peut-être la maladie va bien pour vous aider en quelque sorte, que peut-être Dieu a un but divin à travers cette maladie, ou que peut-être vous pensez que la maladie, ça fait partie de la vie, que la maladie, c'est normal, ça vient avec l'âge, et qu'après un petit bout de temps, sur la terre, bon, on doit accepter la maladie, c'est naturel.
Vous
voyez, si vous avez un tout petit peu, que vous pensez peut-être une seconde que la maladie c'est normal, que vous devez l'accepter, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne recevrez jamais la guérison. Donc c'est important ce soir de répondre à cette question. Non simplement à la légère, parce que la plupart d'entre vous, vous allez dire, ah oui, non, on n'accepte pas. Mais on doit savoir être convaincu persuadé à travers la parole.
Ariko umuntu akwiye kuba byemejwe neza biciye mu ijambo ry'Imana.
Que vous savez d'une manière certaine.
Mukamenya neza mudakekeranya.
Que la maladie, ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter.
Kwingwara atari ikintu mukwiye kwemerera.
Voyez, quand je voyage à travers le monde, je vais des États-Unis, en Asie, en Afrique, en Europe. Et je rencontre des milliers de gens. Et j'ai remarqué très souvent que quand j'enseigne ou je prêche d'une manière dogmatique, que la guérison est toujours la volonté de Dieu pour tout le monde, il y a des gens qui se mettent en colère. Il y en a certains qui vont venir vers moi d'une manière agressive en me disant « Ce que vous prêchez est faux !» Et alors je me suis posé des questions. Vous voyez, il y a pas longtemps, quand j'étais en Inde, il y avait un jeune homme qui avait fait un peu le fou, qui avait sauté un précipice dans l'eau. Il s'était brisé la colonne vertébrale et il a atterri dans un fauteuil roulant. Et quand je lui ai dit, Dieu est bon. Il veut te guérir. C'est pas son but, c'est pas son dessein pour toi. Il est devenu en colère. Il a commencé à m'insulter en disant « Non, ça, c'est le but de Dieu pour ma vie. Dieu l'a permis pour m'apprendre, pour m'enseigner quelque chose. C'est Dieu qui l'a laissé faire afin que je me rapproche vers lui. » Vous savez, des fois, on en entend des vertes et des pas mûres. Ça, c'est une expression française. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, les gens viennent avec des théories, des choses qui sont choquantes, à mon avis. Dire que c'est Dieu qui nous rend malades. Que c'est Dieu qui permet la maladie pour nous enseigner, pour nous aider. Il y en a peut-être certains parmi vous, vous pensez la même chose. Alors on doit éclaircir la chose. Et voyez, je me suis posé la question. Et je me suis dit, pourquoi ces personnes sont tellement persuadées que Dieu ne veut pas guérir tout le monde? Vous savez ce que j'ai découvert? Que très souvent, c'était des personnes qui avait prié pour quelqu'un qui était malade. C'était quelqu'un qui, dans le passé, avait cru que la guérison était la volonté de Dieu. Et qui avait prié pour le malade. Et le malade n'a pas été guéri. Donc ils en sont venus à la conclusion que s'ils avaient prié pour le malade et que le malade n'a pas été guéri, après tout, ça devait être la volonté de Dieu. Parce qu'après tout, Dieu est souverain. Si Dieu avait voulu le guérir, il serait guéri. Oui, Dieu est souverain. Mais laissez-moi éclaircir quelque chose. Dieu est souverain. Mais il a mis sa souveraineté et dans sa parole. Vous savez ce que Jean 1:1 nous dit? Jean 1:1 nous dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et que Dieu est souverain, la parole de Dieu est souveraine. Vous savez ce que la parole nous dit dans Psaume 138, verset 2? Je vais lire, c'est dans la version d'Arby. Une version d'Arby. Vous connaissez la version d'Arby, peut-être? La version d'Arby dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom.
Ngwimana yashize hejuru ijambo ryayo kurusha hejuru izina ryayo.
Vous savez, quand on parle d'un nom, que quelqu'un a un bon nom, ça veut dire que quelqu'un a une bonne réputation. Et il dit que Dieu a exalté sa parole même au-dessus de sa réputation. Et des fois, sa réputation, elle en souffre un coup. Parce que les gens accusent Dieu, lui disent c'est Dieu qui rend malade, c'est Dieu qui fait ceci, qui a causé qui a fait un tremblement de terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Et oui, Dieu est souverain, mais sa parole, et il a dit, c'est ma parole qui va être souveraine. Car Dieu est la parole. Et c'est dans sa parole qu'on découvre sa volonté. Et c'est à travers sa parole qu'il accomplit sa volonté. Allez avec moi, si vous pouvez, dans Jean, chapitre 1, verset 3. Vous vous rappelez, dans Psaume 107, verset 20, nous dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Oh, vous êtes trop silencieux ce soir. Alléluia.
Amen.
S'il vous plaît, souriez-moi un petit peu. Il y en a certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller chercher des pierres pour me lapider. Alors attendez un petit peu que je finisse la fin de la soirée. Après, si vous voulez lapider, faites-moi le savoir, je vais courir. Mais au moins, donnez-moi une chance. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Dans Jean chapitre 1,
Yohana wambere, Yohana rimwe,
verset 3,
umurongo wa gatatu.
Pardon, j'ai dans la mauvaise version. Toutes choses ont été faites. Et vous rappelez dans verset 1, allons au verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous savez ce que ça veut dire? Que même aujourd'hui, quand Dieu veut accomplir sa volonté, quand Dieu veut démontrer sa vie, il le fait à travers sa parole. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et donc ça veut dire, mais voyez, il y en a certains qui disent, oui, si la volonté de Dieu était de guérir tout le monde, quand j'ai prié pour cette personne, elle aurait été guérie. Donc si elle n'a pas été guérie, c'est parce qu'après tout, c'est peut-être pas la volonté de Dieu.
Vous
voyez, avec ce genre de raisonnement, est-ce que vous utiliseriez ce raisonnement quand vous dites, ouais, moi, j'ai prié pour ma belle-sœur pour qu'elle soit sauvée. Elle
n'a
pas été sauvée. Ah, ben peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu pour elle. Est-ce que vous diriez cela? Parce que quelqu'un n'a pas été sauvé, qu'après tout, ça ne devait pas être la volonté de Dieu. Absolument non.
Sivio.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que vous et moi, on sait que 2 Pierre 3, 9 nous dit que Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle.
Turazi neza ko muri Petero bavuga ngo Imana ishaka bose bakizwa baro ubuzima budashira.
Et on sait que si quelqu'un n'est pas sauvé,
kandi turazi ko umuntu adakijijwe,
même si vous avez prié pour cette personne,
nubwo baba musengeye,
ça veut pas dire que c'était la volonté de Dieu,
ntibisigura ko bwari ubugombe bw'Imana,
mais que quelque part cette personne n'a pas reçu.
Ariko umuntu ntacyo yakiriye.
Amen.
Amen.
Mais alors pourquoi on utilise ce genre de raisonnement pour la guérison? Pourquoi utilisons-nous ce raisonnement pour quand on prie pour les malades? Ne me regardez pas d'une manière si sainte. Tu vas répéter ce que je vais dire? Avec conviction? Amen.
Amen.
Alléluia. On est en un accord ici? Comme Jésus est le Père, il fait ce qu'il voit le Père faire, c'est bon alors. Voyez, non, on n'utilise pas ce raisonnement pour le salut. Et de même manière, on ne doit pas utiliser ce raisonnement pour la guérison. Parce que si on prie pour les malades, ils ne sont pas guéris, ça ne veut pas dire que c'était parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors ce soir, on doit enlever ce faux raisonnement et devenir persuadé que on ne doit pas accepter même une seconde la maladie dans notre vie. Amen, merci pour cette... Amen. Elle est où cette sœur? Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur Isabelle, merci. Alléluia. Et afin, voyez, non, pour savoir que la maladie, ce n'est pas quelque chose que l'on doit accepter ou tolérer. Allons à l'origine. Quand on regarde au début, quand Dieu a créé l'homme, est-ce que Dieu, et il a créé tout ce qui a été créé, est-ce que Dieu a créé la maladie? Parce qu'après tout, tout ce qui a été créé, au début, Dieu l'a créé. Mais a-t-il créé la maladie parce qu'après tout, il avait un dessein divin? La première semaine, a-t-il créé le cancer?
A
regardé? Il l'a regardé? Ah, c'est bon. Non. Dieu n'a pas créé la maladie. Et de la même manière, Dieu n'a pas créé l'homme avec de la maladie ou avec la capacité de supporter la maladie. Vous dites, Audrey, comment le sais-tu? Parce que dans Genèse 1, versets 26 et 27, Dieu a dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé parfait, esprit, âme et corps. Il l'a créé parfait. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Pouvez-vous vous imaginer le Père au ciel? Gabriel, aide-moi, j'ai de l'arthrite. Elle m'en fait faire des choses. C'est ça qu'elle est en train de penser. Elle m'en fait faire des choses. Gabriel, aide-moi, j'ai de l'arthrite.
Gabriel, aide-moi.
Oh non! Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Et il a créé l'homme parfait. Et l'homme n'a jamais été créé pour subir et supporter la maladie. Mais alors, comment est-ce que la maladie est rentrée? Et quand vous voyez et comprenez comment la maladie est rentrée, ça va vous aider à comprendre que la maladie n'est jamais l'ami de Dieu. Comment est-ce que la maladie est rentrée dans
l'homme?
Romains 5, 12. Allons ensemble dans Romains 5:12. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
None rero ko bimeze bityo nkuko icaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icaha ni ku rupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ivyaha.
On voit que quand le péché est entré dans le monde,
turabona ko icaha igacinjira mu isi.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Hachi hakore kiki?
Qu'est-ce qui est rentré dans le monde?
Ni kiki cyacha cinjira mu isi?
La mort spirituelle.
Urupfu mu buryo bw'impemo.
Qu'est-ce que c'est la mort spirituelle? Voilà une petite image que je vais vous donner. Voyez, quand Adam et Ève ont été créés, ils avaient la nature de Dieu en eux. La vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu qui coulait à travers eux, en eux et à travers eux. Voyez, comme un petit bébé qui est connecté au ventre de sa mère par le cordon ombilical. Et ce bébé reçoit la nourriture, la vie de sa mère. Amen. Et quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ce cordon ombilical spirituel a été coupé. C'est ça la mort spirituelle. Et parce que la mort spirituelle est rentrée, qu'est-ce que ça a fait? Ça a introduit la maladie, la pauvreté, la corruption. C'est pour ça que vous, au début, Adam n'est pas mort physiquement immédiatement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce cordon ombilical spirituel a été coupé. La mort spirituelle a fait que petit à petit, à petit, à petit, la corruption s'est installée. Et qu'est-ce qui s'est passé? 930 ans plus tard, il est mort. Le péché a introduit la mort spirituelle. Et la mort spirituelle a amené la maladie. Et la maladie se finit. Si vous faites rien avec votre maladie, que vous ne priez pas, que vous n'allez pas chez le docteur, qu'est-ce qui va se passer? La mort. En fin de compte, la maladie est une forme de mort. Quand vous êtes atteint de maladie, la mort est en train de travailler en vous. La maladie est une forme de mort. Mais vous voyez que la maladie est rentrée dans le monde quand le péché est entré dans le monde. Vous voyez ce que ça veut dire? Que Dieu, il regarde à la maladie tout comme il regarde au péché. Pour lui, la maladie et le péché, c'est la même chose. Dieu est le péché. Êtes-vous d'accord? Dieu, il y en a simplement 5 qui sont convaincus? Merci. Est-ce que Dieu est le péché? Oui. Dieu est le péché. Mais vous savez que Dieu est la maladie aussi. De la même manière. Et le péché est l'ennemi de Dieu. Êtes-vous d'accord? Mais la maladie est aussi l'ennemi de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15:26, on vient de voir que la maladie est venue avec le péché quand la mort est rentrée. Et 1 Corinthiens 15:26 nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Dieu
appelle la mort son ennemi.
Imana yiturupfu umwasi wayo.
Vous savez ce que ça veut dire? Que si la maladie est une forme de mort, la maladie est l'ennemi de Dieu aussi.
Nimba urupfu ingwara ishushanywa n'urupfu ingwara n'umwasi w'Imana.
Dans Deutéronome 28, Dieu appelle la maladie une malédiction. Dieu n'appelle jamais la maladie une bénédiction. Contrairement à ce que certains chrétiens proclament. Ah oui, des fois, Audrey, la maladie, c'est une bénédiction déguisée. Non, Dieu appelle la maladie une malédiction. Dans Luc 13, verset 16, Jésus déclare que la maladie est l'œuvre du diable. Jamais de Dieu.
Acte 10, 38.
Luc dit que Jésus était loin du Saint-Esprit et de puissance et qu'il allait de lieu en lieu pour détruire, pour guérir tous les malades qui étaient sous l'emprise du diable. Le Père appelle la maladie son ennemi. Jésus appelle la maladie l'œuvre du diable. Alléluia. Et Dieu regarde la maladie comme il regarde le péché. Ça veut dire que nous devons apprendre à haïr la maladie tout comme on apprend à haïr le péché.
Vous
voyez, la plupart d'entre nous, si le péché c'est de rentrer dans notre famille, qu'est-ce qu'on fait?
Oui,
comme pasteur Isabelle a dit, on nous a appris à résister et à nous battre contre le péché. On nous a appris, on ne doit jamais accepter le péché. Mais pourquoi? Quand vous savez, quand ça commence à faire un petit peu plus froid, tout d'un coup, on a un petit peu mal de gorge. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la maladie qui frappe à notre porte. Et on fait, ben, vas-y, rentre. Fais comme chez toi. On accepte la maladie. On accepte la maladie comme faisant partie de la vie. Après tout le monde est malade à ce moment-là. T'as pas entendu? Il y a une grippe. Il y a une grippe qui circule. Partout dans ce monde, on nous a conditionnés à accepter la maladie. Qu'est-ce que vous avez entendu dire? Votre grand-père avait le cancer. Votre père avait le cancer.
Papa, on a eu le cancer.
Votre frère a le cancer. Bah alors, nous devrions dire, c'est monsieur, attendez-vous à avoir cancer. Et tout d'un coup, vous acceptez comme, ben, c'est ce qui va se passer. Ça circule dans la famille. Ça fait partie de mes gènes. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? C'est normal.
Vous
voyez, on nous a appris et on nous a enseigné à nous soumettre à la maladie. À accepter la maladie.
Ne
me regardez pas d'une manière si sainte. Alléluia.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen.
On doit apprendre à haïr la maladie comme on hait le péché. Et j'espère que vous haïssez le péché. Et est-ce que vous savez quelque chose? Parce que très souvent, les chrétiens se sentent impuissants contre la maladie. On est tellement bombardés par les médias. Ils veulent nous prouver avec toutes les statistiques et les études médicales qu'on ne peut pas échapper à la maladie. Mais on n'est pas impuissant. On a le contrôle de notre vie. Est-ce que vous savez comment est-ce que le diable introduit, essaie de vous faire pécher? Comment est-ce que le diable essaie de vous faire tomber dans le péché? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va amener? Comment ça s'appelle? Tentation. Comme une petite carotte qui brandit devant votre nez pour vous. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous faire mordre à l'hameçon. La question, quand vous êtes tenté, est-ce que vous péchez? Est-ce que la tentation est le péché? Non. Mais quand est-ce que cette tentation devient le péché? Quand vous cédez à la tentation. Quand vous vous soumettez à la tentation. Quand vous vous soumettez à la tentation, tout d'un coup, ça donne naissance au péché. Écoutez-moi bien. Le diable œuvre de la même manière pour vous faire accepter la maladie. Comment le fait-il? Écoutez-moi bien. Les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Pour vous faire accepter de pécher, le diable va vous tenter. Et pour vous faire accepter la maladie, le diable va vous mettre des symptômes. Et ces symptômes ne deviennent pas la maladie. Les symptômes deviennent maladie quand vous l'acceptez, quand vous cédez, quand vous vous soumettez. Amen.
Amen.
Et la question, est-ce que le diable peut vous forcer à pécher? Des fois, on entend quelqu'un, vous voyez, qui est pris dans l'adultère, il se trouve dans un lit avec une femme. Ah, c'est pas ma femme. Je pouvais rien faire. C'est comme si c'était quelque chose qui m'a pris, qui m'a forcé. Le diable me l'a fait faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai fait, je n'ai rien compris. Le diable me l'a fait faire. Non, le diable ne peut rien vous faire faire. Il ne peut pas vous forcer à pécher. De la même manière, il ne peut pas vous forcer à être malade. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Amen.
Merci. Mais c'est vrai. Vous voyez, Matthieu 18, 18 dit: tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Permettez-moi de vous donner une traduction un petit peu de français courant. Tout ce que vous permettez sur la terre devra être permis dans le monde spirituel. Tout ce que vous ne permettez pas ici sur la terre, Dieu ne le permettra pas dans le monde spirituel. En fin de compte, quand les symptômes viennent et frappent à votre porte, vous avez un choix.
Parce
que voyez comment est-ce que le diable travaille.
Comment
est-ce qu'il œuvre.
Tout ce
qu'il fait afin de faire quoi que ce soit dans votre vie, il peut seulement le faire en obtenant votre permission. Tout ce que vous permettrez, Dieu devra le permettre. Tout ce que vous ne permettez pas, alors Dieu ne le permettra pas. Très souvent on dit, Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis que ça se passe? Dieu n'a rien permis. C'est vous qui l'avez permis. Alléluia.
Amen.
C'est silencieux dans cette église catholique ce soir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, je me rappelle, j'étais une petite catholique, j'ai grandi catholique. À chaque fois qu'on devait aller à l'église, on va réveiller Dieu. Faut que je fasse sourire d'une manière ou d'une autre. Alléluia.
Amen.
J'aime les catholiques. Dans deux semaines, j'y vais. Je vais prêcher dans une conférence catholique du Saint-Esprit. Et Dieu est en train de faire de grandes choses dans l'Église. Parmi nos frères et sœurs catholiques.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc, afin de vous faire pécher, le diable doit obtenir votre permission. Afin de vous rendre malade, le diable doit obtenir votre permission. Quand il frappe à votre porte avec la maladie, vous allez ou ouvrir la porte ou lui fermer la porte au nez. C'est vous qui décidez. Amen. Mais comment est-ce que le diable va obtenir votre permission? Parce qu'après tout, on ne peut pas lui dire, viens diable, viens à la maison, viens cancer, viens. Mais comment est-ce que le diable va obtenir votre permission de faire en sorte que vous l'acceptiez, que vous vous soumettiez? La plupart du temps, vous allez donner permission sans même vous en rendre compte. La plupart du temps, on lui donne permission inconsciemment. Comment est-ce qu'il le fait? Une des premières manières, c'est à travers nos paroles. Dans Marc 11, 23, Jésus a dit, tout ce que vous dites, si vous croyez que ça se fera, vous le verrez s'accomplir, car vous aurez ce que vous dites. Ce qui sort de notre bouche, c'est de cette manière, à travers nos paroles, que l'on donne permission. Si vous écoutez très souvent les gens parler, ils vont dire, comme je vous ai dit avant, ben oui, mon grand-père avait le diabète, mon père avait le diabète. Je me demande, je vais sûrement avoir le diabète. Qu'est-ce que vous venez de faire? Sans vous en rendre compte, vous avez ouvert la porte et donné permission au diabète de rentrer dans votre maison. Des fois, j'entends des gens qui disent, ouais, moi je sais, je ne vais jamais vivre passé l'âge de 50 ans. Jésus a dit ce que vous croyez dans votre cœur et confessez votre bouche va se faire. On donne permission par ce que l'on, par nos paroles. C'est pour cela que vous avez remarqué que le diable nous bombarde constamment avec l'incrédulité. Vous ne pouvez pas regarder une émission de télé ou écouter quoi que ce soit sans entendre la mort, la maladie.
ntushobora kuraba televiziyo cyangwa ibindi bintu ngo ntiwumve bavuga iby'indwara n'urupfu.
Et ces paroles, ce sont des paroles de mort qui rentrent dans notre corps.
Cœur.
Et sans s'en rendre compte, tout d'un coup, elles sortent de notre bouche.
Amen.
Amen. Le diable va obtenir votre permission à travers vos paroles. Et des fois, à travers les paroles qui vous sont parlées, qui vous sont déclaré. Dans Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
Amen.
Vous savez ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'une arme devient forgée contre vous? Par des paroles qui vous sont proclamées. Qu'est-ce que je veux dire? Exemple. Il
n'y
a pas longtemps de cela, ma meilleure amie est une infirmière. On était ensemble. Et elle me dit, oh Audrey, tu sais, maintenant que tu as tourné la cinquantaine, tu es devenue la cinquantaine, tu sais ce qui va se passer. Tu vas commencer à avoir la ménopause, les bouffées chaleur. Ça et tout ça.
N'ibindi.
Et tout d'un coup, c'est ce qu'elle me dit.
Je me suis
dit, j'ai réfléchi une seconde, j'ai dit, est-ce que c'est ce que je veux permettre dans ma vie? Est-ce que c'est ce que je veux permettre dans mon corps? Alors là, j'avais un choix. Parce que si ces paroles, je ne les condamnais pas, ces paroles devenaient une arme forgée contre moi. Et à ce moment-là, j'ai dû prendre la décision. Et j'ai dû le faire avec gentillesse, diplomatie. Mais je dis, Bobby, est-ce que c'est ce que tu veux qui se passe dans ma vie? Est-ce que c'est ce que tu veux que j'ai dans mon corps? C'est comme si je l'avais surprise, elle me dit. Oh! Ah ben non. Alors je dis, est-ce que tu veux que je me mette d'accord avec toi? Elle me dit, ah ben non. Alors je dis non. Oui, j'ai 51 ans. Mais non, je ne vais pas avoir les bouffées de chaleur. Mais non, je ne vais pas avoir ces problèmes de ménopause. Moi, je vais passer la ménopause comme une lettre à la poste.
Vous
voyez, à ce moment-là, ces paroles qui étaient déclarées sans méchanceté, d'une manière innocente, si je ne les condamnais pas, elles seraient devenues une arme forgée contre moi. Je me rappelle une autre fois, j'étais à la maison. Le téléphone sonne. Il y a ce monsieur que je ne connais pas qui m'appelle. Il me dit, Madame Mac, quel âge avez-vous? 49 ans, à l'époque j'avais 49 ans. Il me dit, savez-vous que les statistiques médicales ont démontré que les femmes, après l'âge de 45 ans, développent l'ostéoporose, développent cette maladie. Et moi je dis, je ne sais pas, monsieur, ce que vous voulez me vendre, mais je vais vous dire tout de suite, vous perdez votre temps. Parce que non, non, tout ce que vous aviez dit, ça ne va pas se passer dans ma maison. Ça
ne
va pas se passer dans mon corps.
Vous dites,
ah, vous êtes si sûr de ça? Pourquoi êtes-vous si sûr? Il a commencé d'une manière un peu ironique à essayer de me pousser un petit peu. Il dit, alors vous pensez... elle pose. Il a essayé d'une manière un peu de me forcer de la main, de me pousser. Il me dit, pourquoi vous êtes si spécial? Alors je dis, oh, ben me pousse pas alors. Je dis, non, 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 tout ce que vous avez dit ne va pas, je ne vais pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en moi. Il me dit, oh, alors là, vous pensez que vous êtes si spécial. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas assujetti. J'ai l'esprit de vie en moi et je ne suis pas assujetti à l'esprit de mort qui est dans ce monde. Alors j'ai dit, monsieur, je vous remercie. Je ne veux pas perdre votre temps. Merci, au revoir.
Vous
voyez, la plus, on a un problème. C'est que la plupart des gens,
abantu benshi,
oh ben non, on ne veut pas offenser quiconque. Il vaut mieux rien dire. Il faut pas offenser. Hein. Alors la plupart des gens ne disent rien. Et après, ils s'étonnent. Pourquoi est-ce que cette arme a été forgée contre eux? Pourquoi est-ce que la maladie est rentrée dans leur corps? Pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, des paroles ont été forgées, des armes ont été forgées contre eux.
Et
ils restent silencieux. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne condamnent pas, ils ne cancellent, non. Annulent, ils n'annulent pas ces paroles. Ils donnent permission. Et Dieu a dit, tout ce que vous permettez sur la terre, moi, je vais devoir le permettre dans le monde spirituel. Et
ce
n'est pas Dieu qui a permis la maladie dans votre vie. C'est vous, quelque part, qui l'avez permis. Pourquoi? Vous dites, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné autorité. Psaume 115, verset 16. Il dit, les cieux, oui, les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme.
Vous
voyez, Dieu a autorité dans les cieux. Mais il nous a donné autorité sur la terre. Et quand nous permettons certaines choses ici, ça c'est permission dans le monde spirituel. Et Dieu doit le permettre. Il y en a certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à l'avaler. Mais c'est vrai. Et vous vous dites, mais pourquoi? Est-ce que Dieu l'a permis? Dieu a dû le permettre parce que c'est vous qui l'avez permis. Amen.
Amen.
Ah, voyez, ça c'est un des outils, la passivité est un des outils du diable. Des fois on se dit, si je reste neutre, le diable ne va rien faire. Neutre n'est pas un mot dans le vocabulaire du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas être Dieu, neutre. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3:6, voit que quand le serpent est venu pour tenter
Ève,
où était Adam?
Adam
à côté d'Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu.
Satan a raza.
a tenté. Et Adam n'a rien dit.
Alors,
le diable est venu pour tenter et Adam, qui avait l'autorité, n'a rien fait, n'a rien dit.
Satani yaje kubagerageza Adam nawe rafite ububasha cyaraceceka ntagira icyo akoze.
Et parce qu'il est resté passif.
Kubera yagumye hatacyo akoze.
À cause de cette passivité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cédé son autorité au diable.
Ububasha yari yarahawe yaciye buronka Satani.
C'est pour ça que dans Luc 4, quand Jésus a été tenté par le diable, vous vous rappelez ce que le diable lui a dit?
Il
dit, si tu me loues et que tu m'adores, que tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes et cette autorité, je te la donnerai. Car elles m'ont été délivrées. Qui est-ce qui a délivré cette autorité à Satan? Adam.
Adam.
Pourquoi est-ce que, bah après tout, Adam n'a rien dit, il n'a rien fait?
Oui,
parce qu'il n'a rien dit et qu'il n'a rien fait, il a cédé son autorité. Parce qu'il n'a pas mis le pied par terre en disant « Satan, va-t'en !» Parce qu'il n'a pas résisté
Satan,
il a permis à Satan d'être dans le jardin.
Alléluia. Amen.
Ça veut dire qu'on doit apprendre à, de la même manière qu'on apprend à résister au péché, on doit apprendre à résister à la maladie. Mais vous savez, c'est plus difficile de chasser l'ennemi quand vous l'avez laissé rentrer à la maison. Qu'il est assis sur le fauteuil avec l'épée sur la table. Quand est-ce qu'on doit commencer à résister la maladie? Quand elle frappe à la porte, au signe des premiers symptômes, on ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est la grippe.
C'est une grippe.
On ferme la porte. Parce que j'ai remarqué que quand la maladie rentre à l'intérieur, elle se met à l'aise à la maison. C'est plus difficile de lui mettre un coup de pied au derrière et de la faire partir. Amen.
Amen.
On doit apprendre à résister la maladie et les symptômes au lieu de les accepter, de céder à ces symptômes. On les résiste. On se met en colère. Amen. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Parce que vous savez, le diable nous a séduits et nous a... Comment est-ce que je pourrais appeler ça en français? Nous a... Aide-moi, Saint-Esprit. Nous a pacifiés. Il nous a rendus indolents, passifs.
Il ne
faut pas se mettre en colère.
Il
faut être toujours tout gentil. Il ne faut jamais dire un mot de travers. Et on nous a enseigné que la colère est toujours négative, c'est toujours mauvais. Êtes-vous dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Et je lis dans la Darby, je ne sais pas si vous avez la Darby. Non, pas la Louis II, mais vous avez la Darby? Non, pas la Darby, alors enlevez-le du tableau si vous pouvez. Merci. Je vous le lis dans la Darby. Il y a certains versets qui sont bien traduits dans la Darby selon les textes originaux.
Hariho imirongo ya Bibiliya isiguye neza n'ubu mugabo baby ko bayisiguye bihwanye n'ivyanditswe
Combien d'entre vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français? Ou dans Burundi? Non. Ça a été écrit en hébreu et en grec. Alors écoutez bien ce verset dans Éphésiens 4. Verset 26. Mettez-vous en colère. Dieu, tu es en train de me dire de me mettre en colère? Mettez-vous en colère, est-ce que c'est une suggestion? Certains d'entre vous, vous me regardez perplexe. Non, quand Dieu dit mettez-vous en colère, c'est un commandement. Il dit mettez-vous en colère. Et ne péchez point. Pourquoi nous dit-il de nous mettre en colère et de ne pas pécher? Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de colère qui est une colère juste. Une colère sainte. Vous vous rappelez Jésus dans le temple? Gentil petit Jésus. Tout doux. Quand Jésus est allé dans le temple, je vais la faire rire, un de ces quatre, et qu'il a vu les gens qui vendaient et qui marchandaient dans le temple, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est mis en colère. Il a pris des cordes, il en a fait des fouets et petit gentil Jésus. Il s'est mis en colère. Mais est-ce qu'il a péché? Non, non. Voyez, il n'a pas péché. Il s'est mis en colère, mais il n'a pas péché. Pourquoi? Parce que c'était une colère juste. Et il y a une colère juste qui n'est pas contre les gens, mais qui est une colère contre l'injustice, contre le péché, contre la maladie, contre tout ce que le diable essaie de faire. Et vous remarquez, écoutez bien ce que ça dit. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu dit, vous devez être en colère à l'intérieur. En colère contre le péché. En colère contre la maladie. Et faites en sorte que ce genre de colère ne s'arrête pas. Ne laisse pas le soleil se coucher sur votre colère. Ça
ne
veut pas dire. Et c'est ça qu'on nous a enseigné. Si tu te mets en colère, tu as intérêt à faire, à demander pardon avant de te coucher. Comme si c'est ok d'être en colère le matin. Si on fait les choses, on met les choses au point avant de se coucher. Non, c'est pas ce que ce verset veut dire. Vous regardez dans le contexte. Paul est en train de parler du péché. Et il dit, mettez-vous en colère. Sans péché. C'est une colère qui est contre le péché, contre la maladie, contre l'injustice. Et fais en sorte que ce genre de colère ne cesse pas. Et ne donne pas place au diable. Écoutez encore. Et ne donnez pas occasion au diable. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas à se mettre en colère à l'intérieur contre le péché et la maladie, on donne occasion au diable.
Uzoburi kuhicicaro satani.
Dominus Patre. Est-ce que vous comprendez ce que je suis en train de dire? Paul est en train de nous dire qu'on doit apprendre à se révolter à l'intérieur contre la maladie. Si vous acceptez la maladie, si vous vous y soumettez, que vous ne vous mettez pas en colère à l'intérieur, vous allez donner occasion à la maladie. Vous allez laisser le diable rentrer et faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Écoutez un petit peu ce verset, Romains 12, verset 9. Alléluia.
Amen.
Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal.
Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi mwanke ikibi.
Ayez en horreur le mal.
Mwanke ikibi.
Qu'est-ce que c'est le mal?
Ikibi gisigura iki?
J'ai regardé cette parole le mal.
Nararavye ijambo ikibi
pour savoir qu'est-ce que ça voulait vraiment dire.
Kugira ngo menye neza ico gisigura.
Ayez le mal en horreur. Écoutez bien ce que le mal veut dire.
Ikibi gisigura.
C'est la parole grecque poneros.
Ni jambo ryo mu kigiriki yisigura rivuga ngo
poneros. Et ça veut dire poneros. P-O-N-E-R-O-S. Ça veut dire ce qui cause la douleur et la peine.
Bisigura ngo ikintu kizana ububabare n'agahinda.
Ce qui amène la douleur et la peine.
Ububabare mu byo bw'umubiri n'ububabare indani mu muntu.
Dans un sens éthique et moral, ce qui est mauvais. Qu'est-ce que c'est qui est mauvais? Le péché. Et dans un sens physique, la maladie. C'est ce que j'ai trouvé dans ma concordance. Romains 12:9. Ayez le mal en horreur. On doit apprendre à avoir horreur du péché, horreur de la maladie. On doit avoir horreur de tout ce qui cause la peine et la douleur. On nous a appris, oh mais non, il faut accepter la douleur. Non, la Bible nous dit on doit se mettre en colère contre la maladie. On doit se mettre en colère contre la douleur. On doit se mettre en colère contre le péché. Sinon, on donne occasion au diable et à la maladie. Et je vais clôturer avec ce témoignage qui va illustrer ce que j'ai essayé de vous communiquer ce soir. J'étais en Suisse. Et il y avait une dame, ils m'ont amené une dame qui était dans un fauteuil roulant. Elle avait été tellement battue par son mari qu'il lui avait sévré, coupé la colonne vertébrale. Elle était paralysée dans un fauteuil roulant.
Et
bien sûr, le mari a été mis en prison. Mais elle était là, désespérée. Découragée. Et quand ils me l'ont amenée, j'ai prié pour elle, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit avec elle, ça ne va pas être immédiat, ça va être progressif. Ne la force pas à sortir de son fauteuil roulant. Mais apprends-lui à recevoir sa guérison et à se battre contre la maladie. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Elle doit apprendre à se mettre en colère, à se mettre à se mettre debout à l'intérieur avant de pouvoir se mettre debout à l'extérieur. Voyez, elle avait accepté cette condition. Elle s'était résignée à cette situation, à cette maladie. Dans sa tête, elle se voyait dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie.
Et
je lui ai dit, tu dois te mettre en colère à l'intérieur. Si tu ne te mets pas en colère à l'intérieur, tu ne sortiras jamais de ce fauteuil. Tu dois te taper, tu dois te mettre en colère contre cette situation. Refuse de l'accepter. Refuse de te résigner. Et donc j'ai passé un petit bout de temps avec elle à lui enseigner ce que je vous ai enseigné ce soir. Et après, j'ai partagé avec elle comment recevoir la guérison. Ce que je vais vous enseigner demain. Et deux mois plus tard, vous voyez, elle n'est pas sortie du fauteuil roulant ce soir-là. Mais deux mois plus tard, elle me donne un petit email. Elle me dit, Audrey, je te remercie pour ce que tu as partagé. Elle
me
dit, je ne suis pas sortie du fauteuil roulant encore. Mais j'ai commencé à me lever. J'ai commencé à me lever un petit peu. Et à bouger mes pieds. Donc je lui ai envoyé une réponse en l'encourageant à persister et à continuer. Un an plus tard, c'était il y a peut-être 2-3 mois de cela, je suis retournée en France. Et j'étais dans une église, prêchais un message dans l'église, et je vois une dame sur le premier rang,
qui
semblait familière, mais je ne la reconnaissais pas. À la fin du culte, elle vient vers moi, elle me dit, vous me reconnaissez? Je dis, je vous connais, mais je ne sais pas d'où. Je suis la dame. Regardez-moi, elle marchait dans l'église. Elle m'a dit, maintenant mon prochain but, c'est de recommencer à conduire. Qu'est-ce qui se serait passé si elle s'était jamais mise en colère à l'intérieur? Elle aurait accepté et donné permission à cette situation. Vous voyez, il y en a pas mal parmi vous. Vous avez des situations, des maladies que vous avez eues peut-être pendant des années ou peut-être ça vous est arrivé il n'y a pas longtemps. La première chose que vous devez apprendre à faire, c'est à vous dire, cette maladie, je ne dois pas l'accepter. Même si j'ai dû la supporter pendant 20 ans, ce soir, je me mets en colère. Je refuse de l'accepter. Parce qu'avant de pouvoir vous relever dans votre guérison, vous devez apprendre à vous relever à l'intérieur. Avoir horreur de cette maladie. Mettez-vous en colère contre cette maladie. Contre le diable. Relevez-vous à l'intérieur. Et revenez demain soir. Parce que demain soir, on va découvrir comment non seulement se lever, mais prendre ce qui nous appartient. Parce que la bonne santé et la guérison, ça nous appartient. Merci d'être venu ce soir. Merci de m'avoir supporter ce soir. Avec toutes mes petites blagues et mon humour un petit peu trop français. Vous êtes très gracieux, merci. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.